Star Wars en direct remercie ses partenaires Mint in Box, Planet Star Wars, Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction.
Bienvenue à Star Wars en direct depuis plus de 20 ans, la voix du fandom Star Wars, pour cette nouvelle édition de littérature consacrée à l'avant-dernier volume du crossover War of the Bounty Hunter sorti chez Panini Comics. Au micro, Loïc, et pour discuter de ces épisodes, j'accueille mes comparses que sont Thomas et Jean. Bonsoir messieurs, comment ça va ?
Ça va bien, merci.
Salut, salut à tous, bonjour à tous, super content d'être ici pour encore discuter de comics avec vous.
Exactement, parce que nous, on aime les livres. Et on n'est pas nombreux. alors, avant de démarrer, on a nos, vous le savez, hein, nos traditionnels petits rappels. Je vais commencer avec le groupe Star Wars Geeks Québec, qui est notre partenaire des émissions littérature et que nous aimons beaucoup. Et on vous invite donc à leur faire un coucou, à les rejoindre où que vous soyez dans le monde. Et on vous encourage à participer à leur collecte de fonds destinée à la cause de la santé mentale au Québec. Le rappel de notre boutique, maintenant vous en avez l'habitude. Donc la boutique Star Wars en direct vous propose donc des t-shirts en design exclusif via le site Redbubble. Donc on rappelle pour ceux qui ne le connaissent pas que vous pouvez commander ces designs exclusifs et vous les faire livrer sans que ça traverse l'Atlantique, etc., sans que vous ayez des frais de douane et tout ça. Donc n'hésitez pas, et on vous présente le dernier né de la famille avec le magnifique Hello There destiné à notre ami Obi-Wan Kenobi, et qui serait tout à fait parfait et opportun pour la fin du mois prochain, presque dans un mois pile pour la nouvelle série qui va bientôt nous arriver. Messieurs, on va passer au WhatsApp. Alors, qui veut commencer ?
Vas-y, toi.
Ok, j'y vais. Alors, moi, du coup, j'ai repris avec un petit peu de... J'avais fait une pause pendant longtemps, je m'y suis remis. Donc, vous devez le reconnaître, je suis très en retard.
En pleine ténèbres.
Voilà, et donc, c'est vrai que c'est quand même assez sympa. Même si ça a la première partie une odeur de huis clos. Et aujourd'hui, j'ai acheté un nouveau comics de Star Wars. Je vous laisse deviner lequel.
Alors, il va nous le déballer presque en live, hein, avec ce magnifique sachet Momie. Momie Dijon.
Exactement, voilà. Momie Dijon, ouais. Et, allez, je vous laisse deviner.
Un omnibus.
Non.
Ah.
Plus fin.
La Haute République, volume 2.
Tadam, gagné.
La Haute République, volume 2, bravo.
Voilà, donc du coup, quand je suis dedans, là, je me suis bien remis, donc voilà, je trouve ça plutôt sympa. Et en plus, on a ce personnage qui est dans En pleine ténèbre, Orla. Donc du coup, j'ai trouvé que c'était cool. Donc, par contre, je l'ai acheté aujourd'hui, là, je l'ai posé en rentrant, et je me suis dit, je le sortirai tout à l'heure pour faire un petit coup de WhatsApp. Et donc du coup, comme les WhatsApp doivent être courts, voilà, je m'arrête ici, et En pleine ténèbre, c'est très sympa.
Jean, vas-y.
Oui, je suis d'accord avec toi, j'avais beaucoup aimé aussi En pleine ténèbre, là. Excellent. Pareil, hein, je vais aller très très court, donc je ne parlerai pas de tous les romans que j'ai lus depuis notre dernière rencontre, je ne parlerai pas de... Spectre of the Past et Vision of the Future, là, les deux, la duologie de Throne que j'ai lu il y a quelques temps déjà, que je trouve génial. Je ne parlerai pas non plus de Queen's, Queen Hope, là, qui est sorti le dernier tome de la trilogie des Queens de E.K. Johnston, là, que je me suis refait suite à la relecture des deux premiers, donc je me suis fait Shadow et Hope, et donc Peril, pardon, et Hope pour finir, que je trouve toujours aussi excellent, les trois. Et je ne parlerai pas non plus du roman Kenobi que j'ai lu récemment. Et que j'ai trouvé excellent aussi le roman Légende, du coup, ainsi que le dernier tome de X-Wing Mercy Kills, que j'ai trouvé très très bien aussi. Mais ça, on parlera tout ça quand on parlera de romans, hein. J'ai plutôt parlé de comics. Donc là, j'ai relu, alors c'est des comics Legends, vous avez sûrement lu ça à l'époque, c'est Shadow of the Empire, mais notamment la mini-série sur Mara Jade, il y avait une petite mini-série Mara Jade en quelques numéros.
Et, je sais même pas si on l'a eu en VF.
Ah, ok.
Allez, là, c'était dans le... Je suis pas sûr.
C'est une espèce d'omnibus de gros tomes là où tu as Shadow of the Empire et des petits extras, et ça c'était les petits extras qui avaient à la fin et qui permettent de développer le, le personnage de Mara Jade, donc c'est toujours cool, et aussi la série Shadow of the Empire Evolution, je sais pas si vous l'aviez eu ça aussi à l'époque, ce qui est la suite
techniquement. Oui, ça me dit quelque chose, et d'ailleurs c'est de cette série, me semble-t-il, étaient dérivées quelques figurines Hasbro, notamment l'Imperial Guard ou un truc comme ça.
D'accord, ils avaient fait des figurines à partir de
ça. Il me semble.
Bah, le premier Shadow of the Empire, c'était un cross-média, en fait. Donc, il y avait vraiment tout, en fait. Ils avaient même sorti, je crois, la bande originale en CD ou en vinyle, je crois. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de choses. Et évidemment, ils avaient sorti les figurines. Quoi.
Ouais. Et je vous conseille l'épisode de Star Wars Direct que vous aviez fait il y a un petit moment déjà, et qui revenait sur justement ce crossover de la mort qui tuait à l'époque. Donc très très bon épisode. Et là, ouais, l'évolution, donc ça reprend l'histoire de Gwilly, c'est l'assassin androïde du prince Shizor, là, de Shadow of the Empire. Donc ça suit vraiment, c'est de son point de vue, en fait. Donc c'était intéressant, c'était très intéressant aussi de dire ça. Donc voilà un petit peu pour le WhatsApp récent.
Que de lecture, Jean, que de lecture.
J'ai une question, Jean, comment t'as lu ça en combien de temps, là?
Non, mais comme dit souvent, bah, c'est au travail, quoi. Moi, j'ai la chance d'avoir un travail qui me permet d'écouter en même temps.
Ah, d'accord.
Donc, et les comics, bon, par contre, là, le comics, oui, c'est à la maison.
Donc, tu te le mets en audiobook, c'est ça?
Voilà, tous les bouquins, c'est en audiobook. Et en ce moment, je fais des longues journées de 12-13 heures. Et du coup, ça me fait un livre par jour, quasiment, quoi. Donc,
ah oui, d'accord, ça s'explique.
Donc, ça va. On les enchaîne. Donc, ouais. Mais c'est toujours très bien. Hein. C'est pour ça, moi, je suis jamais lassé, parce que je trouve ça très différent. Tu passes de Throne à Queens, à X-Wing, à Kenobi, enfin, c'est tellement différent que je me lasse jamais du truc, quoi.
Ah, c'est top. Et du coup, t'arrives à être concentré malgré tout tout en travaillant sur le bouquin, quoi.
C'est un travail relativement qui nécessite pas de capacité intellectuelle folle, quoi. Donc
plutôt des capacités physiques.
Ouais,
la physique, concentration, mine de rien, c'est pas évident. Hein. Nous, les hommes, on a des fois du mal à faire deux choses à la fois. Hein.
C'est vrai. Mais là, en plus, c'est des travails de nuit, du coup, je suis à moitié endormi, et en fait, je suis plus plongé dans ce que j'écoute que ce que je fais vraiment physiquement.
Ah, c'est top.
Donc, j'imagine qu'on est quand même plus concentré quand on lit un vrai livre physique, et que parfois, j'ai mon esprit qui divague de temps en temps.
Ouais, mais ça, c'est normal.
C'est normal en écoutant des trucs. Mais c'est pour ça que j'aime bien relire les bouquins. Alors, comme là, on va faire, j'imagine, un podcast sur Queen's Hope, bientôt, là, avec l'équipe québécoise, on va peut-être le relire juste avant de l'enregistrer, et je trouve que relire un livre aussi ça permet d'apporter des trucs, des petits détails que tu n'avais pas remarqué pendant la première lecture et tout. Donc
c'est en VO, quoi, par contre, que tu les fais, quoi.
Ouais, par contre, ouais, c'est tout un audiobook, du coup.
Sachant que là, normalement, on va avoir une flopée avec Audible de bouquins VF qui vont arriver en audiobook aussi.
Alors, c'est pas Audible, Thomas, c'est Lizzie,
pardon.
C'est ça.
Sinon, Lucille va nous tirer les oreilles.
Exactement.
Moi, du côté WhatsApp, je suis embêté parce que j'ai vraiment rien du tout. Je vais en reparler juste après, mais j'ai enregistré une émission la semaine dernière et j'ai pas eu vraiment le temps de faire quoi que ce soit depuis. Mais je voudrais revenir sur une petite news, puisque cette semaine a été annoncée quand même l'adaptation manga du Mandalorian. Donc, là, c'est le premier volume, exactement. En sachant qu'en VF, on commence la semaine prochaine à avoir les parutions comics aux alentours du 4 mai. Ben, peut-être qu'avec maintenant un peu de chance, c'est quelque chose qu'on va voir arriver dans nos contrées, cette série Mandalorian et la série Rebels, etc. Donc, je pense que
c'est une sortie VO, là, c'est le manga en
VO. Ouais, là, c'est de la VO, hein, c'est de l'anglais.
D'accord, ok.
Donc... Ouais, je pense qu'on peut on peut commencer à espérer quand même de les avoir, à moins que ces mangas Star Wars fassent vraiment un flop. Ça restera déterminé dans le futur, mais je pense que vraiment on peut avoir quelque chose vraiment de très très sympa.
Et ça reprend la même histoire, quoi, de base.
Ouais, mais ça reprend la même histoire. Alors c'est ça qui est dommage, puisque c'est une adaptation. Maintenant, franchement, je suis pas contre du manga Star Wars, surtout que il y a quand même un engouement manga qui est considérable, et je me dis que Star Wars doit surfer sur la vague, et surtout en VF où on propose pas ces produits là, donc moi je me dis vraiment une belle complémentarité, quoi.
Je me demande si j'aurais pas préféré avoir des éléments, des compléments, un genre de légende qui viendrait raconter d'autres histoires ou faire le Wikipédia, mais bon.
Ouais, je sais pas, j'ai bien envie que le passé du Mandalorien et ce qu'il fait autour des moments où on le voit pas à l'écran nous soit raconté à l'écran. Je trouve que c'est
ouais. Ouais. Ah oui, ce serait encore mieux.
Après, faut se souvenir qu'on avait des projets littérature qui ont été annulés au niveau du Mandalorien. Alors pourquoi pas, peut-être essayer de réintégrer des choses qui ont probablement déjà été écrites dans ce manga en fil rouge ou sur les à côté. Ça pourrait être sympa. Mais ça, on verra. On verra. Et donc, c'est tout pour mon WhatsApp. Et on va faire un petit point sur nos récentes émissions. Vous retrouverez donc sur le site et autres agrégateurs de podcasts un Star Wars en direct Quad 9 du 20 avril avec les actualités, enfin, discussion des actualités Star Wars. Vous retrouverez Aude et moi-même. Et on discute justement, notamment, on discute littérature, on discute beaucoup du planning Panini qui avait été annoncé très récemment au moment de cet enregistrement, mais pas que. On vous dévoile aussi des anecdotes, c'est assez drôle, donc allez y faire un...
Très très bon choix, le petit jeu ouais. À faire aussi, là, c'était...
Et un petit jeu que... Alors, je vais me la péter, mais je l'ai gagné, hein, donc c'était le Hic versus le chat, et je suis un peu fier d'avoir gagné. Ouais, versus le monde.
Excellent.
Un Star Wars en direct express avec la deuxième capsule du guide de survie à célébration, puisque vous n'êtes pas sans le savoir, mais c'est bientôt le moment de la célébration. Donc, si vous vous rendez sur place ou si vous avez envie un peu de vivre l'ambiance célébration, bah, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de cette émission. Et enfin, la plus récente au moment où nous enregistrons, c'est un Star Wars en direct collector avec la mise à jour du mois de mai 2022. Et vous y retrouverez Sébastien, ses invités, Dominique de Star Wars Artifact et Nicolas de Star Wars Geeks Québec autour de nouvelles concernant Lego, Hasbro, etc. De très belles annonces qui ont été faites pour le 4 mai, notamment chez Lego. Si vous aimez les petites briques, vous allez être ravis. Et bah, sur ce, on passe en hyperespace.
Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark.
All right, stand by.
Et on est de retour, et c'est parti pour donc ce volume de La Guerre des Chasseurs de Primes, War of the Bounty Hunter, le volume 4, 16€, sorti chez Panini Comics au mois de mars, et on écoute Jean pour le résumé.
C'est 16€, c'est encore...
Encore 16€ pour 7 épisodes.
Ouais, il y a 7 numéros, donc il y a 2 numéros de Dark Vador dans ce volume. Donc le premier numéro, c'est un flashback... qui se passe, enfin, un genre de flashback, on va dire, qui se passe avant, on a vu tout ce qui était enchères et combat contre Kira, Vador. Donc là, ça se passe avant, où on voit donc Vador et son comparse Ochi de Bestoon, qui vont aller se confronter à beaucoup le Hutt, puis un peu plus tard à Crimson Dawn directement. Par la même occasion, il y aura Vador qui va tester Ochi, et ce dernier va nous montrer un peu tous ses talents de combattant, toutes ses capacités, voilà. Le numéro 16 de Dark Vador, lui, par contre, on revient donc après l'enchère. Donc, on revient après l'enchère. Attendez, où est-ce que sont mes notes ? Tac. Ouais. Et donc, on avait laissé Vador face à Han Solo, après le combat contre Kira, justement. Et là, il va donc chasser Luke à bord de vaisseau. Et l'ambassadeur Moore va lui mettre des bâtons dans les roues pour l'empêcher d'arriver à son but. Voilà. Ensuite, donc on a deux numéros d'Afra également. Donc là, c'est Afra et Sana qui sont à bord du Vermillon et qui vont essayer de voler un collier à une membre du Black Sun qui se révélera être une infiltrée de Crimson Dawn, en fait. Donc l'artefact en question que Afra convoite est un data crystal dans un collier et elle compte ramener cet artefact à Domina. Donc Domina Tag, je ne sais jamais comment on prononce ça, Tag. Tag.
Ouais, c'est ça, tag ou tagué.
Tagué.
Moi, je dirais tag, ouais, c'est mieux.
Tag. Voilà, et dans le 14, donc la fin du 13 se finit par la capture d'Afra et sa mise en prison dans le vaisseau de Kira. Et donc le 14, on voit Afra et Sana rencontrer l'autre groupe dont tout le monde se fout, Lucky et Ariol, qui sont eux aussi en prison et qui vont team up et vont s'échapper et vont se retrouver face à pléthore d'ennemis, dont Destik, qui est un peu l'ennemi récurrente, qui vient de temps en temps mettre des bâtons dans les roues, à nos héros préférés. Ensuite, on a le numéro de la série principale War of the Bounty Hunter 4, par Charles Soule, pardon. qui reprend là directement la, bah, la seconde de la fin du numéro 3 où t'as Vador qui menaçait de tuer Solo, de couper la carbonite en deux si Luke ne se montrait pas. Au final, bah, Luke ne veut pas se montrer, Vador finalement ne va pas couper Solo, comme on s'en doute évidemment, et il va plutôt embarquer la carbonite dans sa navette. Et donc Leia, Chewie et leur groupe de héros vont poursuivre la navette, qui elle-même va se faire poursuivre par comment il s'appelle, Boba Fett. Boba Fett qui lui va se confronter à Dengar et Valance juste un peu avant, va vaincre en quelque sorte Dengar, s'allier en quelque sorte avec Valance, et puis se lancer à la poursuite de la même navette impériale où se trouve Solo donc. Et cliffhanger de fin, donc au moment où dans l'espace t'as tous ces vaisseaux qui se rassemblent, bam, t'as la flotte Hutt qui arrive et qui vient au milieu de tout ça. Voilà, ça finit sur ça. Et le dernier, ou l'avant-dernier plutôt, ça sera sur le Bounty Hunter. Donc là, le Bounty Hunter, c'est un peu un croisement entre celui-là et le War of the Bounty Hunter juste décrit précédemment, où on voit un peu plus en détail les aventures de Drengar et Valance qui vont arriver sur Jakarta, qui vont s'affronter contre Boba, et donc on va revoir cette alliance Valance-Boba, et ce qui arrive à Drengar au final, voilà, qui va être sauvé in extremis par Destik, encore une fois, Destik le retour. Voilà un petit peu pour les résumés rapides, très rapides, de ces numéros, et oui, on finit avec le one-shot de cet épisode, ce volume, qui est sur Bush, Loïc.
Oui, alors on y reviendra tout à l'heure, hein, parce que... Là, on va vraiment d'abord se concentrer un petit peu sur cette intrigue principale, parce que ce volume de Bush, contrairement aux autres one-shot qui étaient plutôt, je dirais, qui étaient quand même plutôt reliés, même de loin, ils étaient quand même reliés. Là, on est vraiment sur quelque chose, pour l'instant, qui est un petit peu à part, donc on va y revenir tout à l'heure. On va d'abord donc s'intéresser à ces épisodes que Jean nous a vraiment très bien résumés. Merci Jean.
Et
survol. Ouais, alors c'est très bien parce qu'en fait, tu as très bien résumé. Voilà, je vais enchaîner par mon avis. J'avais dit pour le volume précédent qu'on avait fait un petit peu du surplace, qu'il se passait pas grand chose. Bah là, c'est encore pire. On a à peine quitté le Vermillon dans une partie des épisodes. On arrive maintenant dans l'espace, donc il nous a fallu 6 épisodes. Pour voir tous les personnages quitter le vaisseau, et encore pas tous, puisque Aphra, elle, est encore à l'intérieur du Vermillon. En tout cas, pour les autres personnages, ils ont quitté le vaisseau, ils ont fait un petit passage dans la neige pour se rendre eux-mêmes à leur vaisseau, et ils ont décollé, et ils se sont tous retrouvés dans l'espace, en orbite de la planète, prêts, tous sur les dents, accros, pour récupérer Han Solo. Donc, je suis un petit peu... Je suis un petit peu désabusé parce que forcément, je dis à chaque épisode, oui, bah alors j'attends le prochain pour voir s'il se passe vraiment quelque chose. Et puis là, encore une fois, c'est un petit peu la douche froide. Il ne se passe pas grand-chose, vraiment. Pour moi, dans ces épisodes, c'est d'une platitude. Les épisodes, se croisent, s'entrecroisent, comme tu l'as dit, Jean. Sans apporter de pierre vraiment à l'édifice. Alors certes, il y a des petites choses intéressantes, et tu l'as dit, par exemple, dans le premier épisode de Vador, on a un petit peu un jeu d'alliance, puisque on a Ochi contre Slymour, on a beaucoup contre Vador et contre les Hutt, puisque voilà, il y a d'abord un jeu avec Vador et beaucoup pour piéger Jabba, pour qu'il se tienne un petit peu... à l'écart, Jabba, lui, il est pas bête, Vador, il est pas bête, Ochi, il est complètement un petit peu paumé, c'est peut-être celui qui est le plus paumé, qui sait pas trop ce qui se passe, et il se fait tester par Vador, donc ça, c'était vraiment sympa. Attention, j'ai dit du bien dans l'épisode de Dark Vador, donc je suis assez content. Et il se passe des choses, au moins, dans c'est peut-être l'épisode, on va dire, des séries principales sur lequel, pour moi, il se passe le plus de choses. Aphra, j'ai vraiment du mal. C'est pas vraiment lié à l'intrigue principale. Elle se retrouve là parce que, alors, on va y revenir après. Il y a une espèce de deuxième trame narrative qui va peut-être nous amener quelque chose dans le futur. Ça, on ne sait pas pour l'instant. Mais on est vraiment très détaché au niveau d'Aphra. Elle est dans le vaisseau avec Sana. Ils sont là tous les quatre. Ils vont faire donc avec Ariol et Chance. Ils vont faire un ils vont être obligés de collaborer pour quitter la prison, voilà, faire face à Destik, faire face à Alex Mentor là qui galine, donc le mentor des mecs. Tout ça pour récupérer le collier qu'ils sont censés ramener à Domina. Donc bon, pour l'instant, je vois pas trop l'intérêt. Ça bouffe un peu la place pour rien. Dans War of the Bounty Hunter, c'est le pire parce qu'il se passe absolument rien. Ils sont dans la neige, ils se parlent, ils s'affrontent. Alors un petit peu, on voit donc un jeu d'alliance qui change puisque Boba va quitter Dengar pour se rapprocher. Non, pardon, Valance va quitter Dengar pour se rapprocher de Boba. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas vraiment de. Ils veulent sauver Han Solo, bah, pour des raisons différentes évidemment, mais ça reste quand même des adversaires. Donc je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens ce qui se passe. Et voilà, voilà ce qui se passe. Moi, je suis un peu, je suis vraiment très très mitigé là. On est à un volume de la fin. Je vois pas. En fait, je l'avais dit. Hein, à quoi va servir ce crossover de cette péripétie de rajouter entre le départ de Bespin et l'arrivée sur Tatooine? Ben, pour l'instant, à part nous ramener l'aube écarlate. À part peut-être changer quelques alliances, je vois pas ce que ça peut, ni dans l'histoire principale, ni dans l'histoire de la galaxie, ce que ça apporte. Voilà. Messieurs, je vous laisse un peu la parole, essayer de défendre ces épisodes vaillamment.
Alors, si tu veux quelqu'un pour défendre les épisodes, Jean, si tu as des trucs à dire, parce que moi, je vais enfoncer le clou. Donc,
Non, mais vas-y, j'ai déjà pas mal parlé, je te laisse.
Okay. Aller, alors... Moi, en ce qui concerne Dark Vador, là, les flashbacks, ils n'ont absolument rien à faire dans cette espèce de crossover où c'est censé faire avancer le truc. T'as l'impression que le gars, comme du coup, il n'a rien à raconter, bah, il va se dire, il va rajouter des bouts d'avant. Mais c'est plus crossover, c'est juste hors sujet, donc ça, déjà, ça marche pas. Le petit moment où il se passe à peu près quelque chose avec Dark Vador, finalement, il se rencontre pas vraiment, c'est aussi pas mal de flashbacks ou de pensées possibles de ce que ça donnerait par la suite. Donc, j'ai pas été convaincu non plus. Aphra, il se passe strictement rien. Et en plus, il change de dessinateur entre les deux épisodes. Et là, clairement, c'est flagrant quand tu les mets à la suite. Donc ça fait vraiment bizarre. Le deuxième dessinateur, je trouve vraiment moche. Et en plus, on a ce team-up là, des deux personnages qui, en fait, c'est des spin-offs de Aphra qui est lui-même un spin-off d'une série Dark Vador qui est un spin-off de la série Star Wars qui est le spin-off des films. Donc, à un moment, il y a tellement une mise en abîme que, en fait, je lisais ces trucs, je passais les pages à toute vitesse pour me dire, voilà, avance pour attendre la suite. Ensuite, les chasseurs de primes, bah, ça peut être intéressant, mais comme tu l'as dit, en fait, bah, du coup, je vais être totalement d'accord avec toi. Déjà, on retrouve toujours les fameux principaux chasseurs de primes qui sont toujours au même endroit, les mecs qui se connaissent tous par cœur. Et dès qu'ils commencent à avoir des semblants d'alliance, ils se trahissent, ils partent avec un autre, mais sans vraiment qu'il y ait un espèce de raisonnement. Surtout qu'on a l'impression que Valance et puis Dengar, à un moment, il y a un feeling en fait qui s'est lié entre les deux, puis tout d'un coup, c'est cassé pour rien, il l'abandonne sans raison. Dengar, en plus, ça le décrédibilise totalement comme personnage. Alors autant dans Lego Star Wars, où il passait pour une andouille, autant là, je trouve que c'est dommage parce que ça casse un des persos. Un peu comme Dark Vador qui était un peu cassé par rapport à. On l'avait dit la dernière fois par rapport
à. Ouais, complètement.
Alors, s'il y a un petit truc qui est sympa, c'est Aphra qui a super peur de Dark Vador au départ. C'est le seul moment où on se dit ah ouais, là il y a un peu de pression, mais après, juste après, fou, ça recouvre complètement. La série principale, ben. Il se passe pas grand chose non plus. Il y a l'espèce de lien avec les Hutts là. La seule chose que ça nous donne, en fait, ça nous donne envie, chaque tome nous donne encore plus envie de savoir la suite, mais là ça marche presque plus au bout du quatrième, parce que comme tu l'as dit,
il y a ouais.
Un tome
c'est vrai que les kiffs sont bons,
hein. Ouais, où, sont bons, où ça va nous emmener, il n'y a que ça d'intéressant, mais comme on voit que ça mène nulle part, bah, finalement on est quand même relativement déçu, et c'est un peu ça le problème qu'on a avec ça. Et donc finalement, bah, moi je suis vraiment très très déçu de ce truc-là, qui en fait bah, n'amène vraiment quasiment rien. Et puis ça aurait été un premier tome, en fait les quatre premiers tomes qu'on achète à 16 balles et on se bouffe 200 pages, bah, ça aurait pu tenir en un seul.
Largement.
ça aurait été bien plus punchy, bien plus sympa. Et en fait, finalement, à un moment, je me dis, mais... et pourtant, vous m'aviez redonné le smile hein, au départ, quand je m'étais remis dans Bounty Hunter, parce que je me dis, ouais, il va y avoir quelque chose, je sens. Et là, je fais vraiment le mec blasé. Je suis désolé pour les gens qui nous écoutent, parce qu'on envoie plutôt des ondes négatives, mais... Mais du coup, oui, c'est très poussif. Et du coup, je suis quand même déçu, quoi. Donc voilà, je sais pas trop quoi dire de plus, sinon que j'ai sûrement apprécié du coup le Haute République, a priori, quand je vais me mettre dessus. Mais ouais, non, c'est très très mou. Et en fait, qu'est-ce qui nous fait tenir la série, c'est savoir comment ça se fait que comment Han Solo va atterrir chez Jabba dans son palais. Et là, il y a tellement de trucs. Il y a tellement de gens qui sont sur Boba, sur Han Solo, qu'on se demande comment il arrive chez Jabba, parce qu'a priori, il va se passer encore un certain nombre de numéros sans que personne n'arrive chez Jabba, si c'est bien lui qui le récupère. Parce qu'en fait, tout le monde le veut, Han Solo.
Au-delà de ça, il est... Enfin, on n'a aucune idée, quand commence l'épisode 6... On n'a aucune idée de qu'est-ce qui s'est passé. Enfin, pour nous, il est parti de Bespin, il est arrivé sur Tatooine, terminé. Il reste pas d'éventuelles tensions entre les personnages qu'on pourrait éventuellement voir, même cette fausse bouche qui va arriver en la personne de Leia. Donc, il n'y a pas d'animosité de Jabba, qui vient quand même, on le rappelle, hein, faut le rappeler. Jabba, il vient de débourser des millions de crédits pour s'acheter son Han Solo que Vador vient de lui voler. Donc, et en plus derrière ça, il faudrait encore qu'il paye Boba pour lui livrer alors qu'il le mec lui a perdu le bousin. Et puis à la fin, il est quand même dans le palais et il est à côté de Jabba. Donc il y a vraiment quelque chose. J'espère que le raccord va être correct, quoi.
Et en plus, on oublie même les autres personnages parce que même Valance, lui, il a une dette d'honneur pour récupérer Han Solo. Mais ce truc-là, du coup, ça veut dire que à un moment, quand ça finit chez Jabba et que plus personne vient le chercher, il va falloir boucler tous ces trucs-là, parce que Vador, il ne peut pas lâcher, sinon il perd toute crédibilité. Valance, il ne peut pas lâcher, sinon il perd sa dette d'honneur. Boba, il ne peut pas lâcher, sinon il n'a plus ses thunes, et puis il perd son, ce qu'il disait dans la série, tu sais, son espèce d'honneur ou de crédibilité voilà, vis-à-vis des gars qui vont lui acheter des choses. Donc, en fait, tout le monde est perdant dans cette histoire. Et donc, comment ça se fait qu'à un moment, tout le monde se dit « Bon, finalement, j'ai bien réfléchi, ça vous parlait, ça n'avait pas le coup, quoi. On s'est mis sur la gueule pendant 1000 pages, mais non, en fait, c'était une connerie. » J'ai du mal à imaginer, voilà, soit les mecs deviennent philosophes, ou soit il va y avoir une grosse incohérence, ou il va se passer un truc, mais là, je les vois mal partis pour boucler le machin. J'ai l'impression que les gars vont laisser le bébé, vont dire « Tiens, il y a tout ça à régler, débrouille-toi pour qu'on retombe sur les pattes. » Et je pense que en plus de nous avoir emmerdés pendant 1000 pages, je pense qu'en plus, ils vont créer des incohérences. Voilà. Et donc, de fait, je trouve que c'est très, très décevant, comme c'est parti. J'ai pas lu le tome 5. Donc
On verra ça dans le tome 5, du coup.
Ah, vas-y, Jean. Essaye de défendre ces épisodes.
Ben justement, là, je vous écoute, et plus ça va, plus je me dis que, ouais, au final, c'est marrant, on le répète à chaque fois, dans chaque épisode, là, pendant ce crossover, mais plus ça va et plus je me dis que la lecture en 100%, ça sera quand même bien mieux au final. Parce que là, peut-être, tu suivras ton équipe de perso et puis ça sera pas prise de tête, tu les suivras dans leurs aventures et puis...
Ouais, voilà. Alors, on va quand même...
Ça passera rien pour autant.
Suivre, ben c'est ça, parce qu'on va quand même suivre des volumes en 100% entre la première et la dernière page, et je pense notamment surtout à la série Star Wars, il ne va rien se passer. Les personnages seront toujours au même endroit s'ils seront sortis du vaisseau, quoi.
C'est-à-dire que le mec va se faire chier pendant un 100% en entier, et il va passer sur le deuxième, ah merde, j'ai déjà vu ça, oh putain, et tout le long, en plus, c'est la fin, que nous, au moins, on est tenus en haleine par, il va peut-être se passer un truc, mais au final, il se passe rien, mais au moins, on nous fait croire qu'il va peut-être se passer un truc, que le gars qui aura vu la fin de l'histoire, imaginons, il commence par la série principale, ou n'importe laquelle, il sait la chute, il va lire tous les 5 ou 6 autres 100%, en se disant, bon, je vais les lire, mais je sais qu'il va rien se passer. Voilà. Bon, même si c'est intéressant, ouais, c'est un peu vache.
Ça, ça va être compliqué, mais ouais, je suis un peu moins véhément que vous, mais je comprends totalement vos points de vue. Hein. Je comprends totalement ce qui déplaît. Là, moi, en fait, j'étais tellement déçu, ça m'a un petit peu chafouiné là, le numéro 3, que là, ce numéro 4, j'ai trouvé que c'était un peu mieux quand même, tu vois. Alors je vais m'expliquer, hein. Jetez pas la pierre encore une fois. Alors déjà sur les Dark Vador, c'est vraiment moi les Dark Vador en ce moment, c'est la série la plus faible, hein, on est un peu d'accord sur ça. Je trouve que Pac et Yenko, l'équipe, c'est pas la meilleure équipe du monde. Hein. Là, j'ai bien aimé le premier numéro quand même, déjà il n'y a pas de flashback. Déjà ça, j'étais content, pas de flashback.
Bah non, c'est un flashback.
Ouais, voilà, le numéro en lui-même, c'est, ouais, ça se passe un peu avant. Ouais, ça aussi, c'est pareil, mais c'est tout ce qui est chronologie.
Des flashbacks de flashbacks qui sont.
Ouais, enfin, non, il n'y a pas de flashback des films, en fait. C'est ça qui nous gênait, tu te rappelles, dans le numéro précédent. Là, c'est là, tout le numéro, ça, ouais. C'est un peu c'est comment. Mettre des explications de pourquoi beaucoup va monter les enchères contre Jabba. Parce que c'est vrai que c'était une question qu'on avait aussi, mais d'où il parie contre Jabba, vu que lui, c'est le même clan, quoi. Donc là, on a un peu l'explication du pourquoi, du comment. J'ai bien aimé le test d'Ochi. Bon, alors, c'est très pam pam boum boum, c'est que des pages d'action, mais moi, Ochi, je le trouvais de plus en plus ridicule, plus en avancée. À part son apparition au tout début. Ou quand il chasse Vader sur Exegol, je crois que c'était. Ouais. Ça, j'aimais bien, je trouvais stylé tout, mais dès qu'il s'était fait ramener par Vador, qu'il s'était allié à lui, je trouvais complètement ridicule. Là, tu vois un petit peu ses capacités de fighter, donc j'ai trouvé ça sympa. Non, j'ai trouvé le numéro sympathique, tu vois, pas ouf, mais agréable à lire, tu vois. Les dessins, je trouve ça plutôt joli aussi, tu vois. Et le 16, par contre, j'ai pas compris le numéro Dark Vador suivant. Alors, j'ai bien aimé la petite recherche qu'il y a, la mise en page au début, je ne sais pas si vous vous rappelez, où tu sais, avec son épée, il coupe la case en deux. Et donc là, tu as des flashbacks des films, retour. Oui. Mais la façon dont c'est fait, je trouvais ça relativement sympathique.
Oui,
tu vois,
dans le découpage, c'est sympa. Mais si tu veux, en fait, c'est un peu noyé dans le reste qui est tellement moins intéressant qu'on n'y prête quasiment plus attention, quoi.
Ouais, non, c'est vrai que c'est la forme est sympathique.
C'est un flashback.
C'est le fond qui. Ouais, voilà. C'est tout ce qui est fond, je suis d'accord avec vous, ça pêche énormément. Et justement, j'avais des questions, parce que moi, j'ai pas compris ce numéro-là, en fait. Je trouve ce numéro très, très bizarre. Alors, ok, niveau action, on est servi, il se passe pas mal de trucs cool, on s'ennuie pas vraiment de ce côté-là. J'arrive pas à comprendre pourquoi, déjà, Moore en veut à ce point à Vador, en fait. Jusqu'à aller réparer le. Rappelez-vous, elle envoie de ses droïdes pour réparer le X-Wing de Luke qui se fait abattre par Vador. Elle va réparer. De son ami,
Elle nous fait une Hux.
Il faudrait qu'on parle un petit peu des technologies qui sont quand même un peu démesurées aussi. Hein. Je ne sais pas si vous avez tilté le moment où Lobo, en fait, tu passes un coup de fil, clac, ça te flingue le vaisseau en un seul coup, ça te fait une espèce de canon à ion. Sais pas quoi. Comment ça se fait qu'on l'a pas utilisé plus tôt ce truc et qu'on l'a jamais réutilisé parce que c'est fantastique comme technologie. T'appelles l'étoile noire, pouf, tout le monde est mort, ça se casse la gueule. Star Wars, c'est fini.
Ouais. Voilà, c'est donc Lobo qui neutralise la Space Shuttle, Imperial Shuttle de Vador. Là.
Mais c'est vrai que ça a pas de sens non plus parce que. Alors je veux bien que l'Empire, ok, c'est des guignols, on nous l'a montré dans les films et dans les séries aussi.
C'est clair qu'ils passent pour des cons.
Voilà, et les milliers d'infiltrations dans des bases sans que personne se rende compte, etc. Mais je veux dire, il y a quand même, on peut pas leur enlever qu'ils ont de la technologie et qu'il doit y avoir des pare-feux et des choses comme ça. Alors ok, Lobo, il est peut-être très fort, mais on parle de la navette de Dark Vador quand même. Donc, voilà. Encore une fois, ça... presque ridiculise encore un peu plus Dark Vador. Ochi, c'est pareil, hein, tu parlais d'Ochi. Ochi, au final, il est presque là, je sais pas, mieux que Vador. Ouais, non mais dans le charisme, il a presque plus de charisme que Vador et plus d'intérêt à suivre que Vador que j'ai plus envie de lire Vador là.
Peut-être
vivement la série Obi-Wan.
Peut-être que les mecs, on leur a dit vérifiez juste que personne soit déguisé en Stormtrooper, c'est le seul piège qui peut nous arriver. Et pour une fois, ils ont vérifié ça, ils ont dit c'est bon, personne n'est déguisé. Et clac, du coup, ils se sont pris ça dans les gars.
C'est marrant que tu te dis ça pour rebondir à ce que tu disais, Loïc. C'est qu'en lisant le Dark Vador 16, le deuxième numéro, du coup, j'étais un peu circonspect du fait de savoir que Dark Vador, en fait, il apparaît quasiment pas. Et j'avais plus l'impression de lire un épisode de Star Wars, en fait, que de Dark Vador, parce que tout le passage avec Luke. Luke qui est dans l'espace, qui se fait harponner par je sais pas qui d'ailleurs, je sais même pas qui c'est qui attaque Luke, j'ai pas trop compris vraiment ce numéro, qui se fait sauver par Vador, qui shoot down quand même, enfin bon, c'était très très confus. Donc celui-là, c'est vraiment le numéro que j'ai pas aimé du tout, mais voilà, j'ai été gâté dans ce volume-là, il y a deux numéros d'Afra, les gars. Et moi, les Afra, vous savez ce que j'en pense, je suis zéro objectivité, moi j'adore.
Ouais, ben. Bah... quand même.
Oui.
Enfin, je veux dire, on est dans la guerre des chasseurs de primes. On est censé suivre les aventures de Han Solo dans la carbonite que tout le monde convoite. Et là, on suit quand même.
Oui,
Afra,
là, ça n'a rien à voir.
Dans une quête qui n'a rien à voir. La seule chose en commun, c'est qu'elle est sur le Vermillon.
Le vaisseau, ouais, c'est ça.
Le vaisseau de Kira.
Ouais.
C'est tout.
Mais ça me fait quand même plaisir moi, de les voir. J'aime beaucoup le team-up avec Sana. J'aime beaucoup, encore une fois, les dialogues. J'aime toujours tout. Ouais. J'aime beaucoup les dessins aussi. Et j'ai essayé de trouver du sens à ce qu'on disait dans les épisodes d'avant, le coup de Ariol et Lucky là, contre le roi Serge là, de Dragon Ball. Pourtant, c'est con. J'y pensais, mais ça pourrait être sympa, ça, tu vois. T'as l'histoire de deux garçons qui ont grandi ensemble et tout, qui sont rapprochés sentimentalement, on va dire, quoi. Ils sont amoureux, là, d'après ce que j'ai compris. Qui ont traîné ensemble, qui sont entraînés par ce maître-là, du coup, qui ensuite les trahit pour... J'ai trouvé, je sais pas, l'histoire est classique, mais elle pourrait être intéressante. Mais là, je sais pas, dans ce numéro-là, ça fonctionne pas. Enfin, dans cette série-là, ça ne fonctionne pas. Alors dites-nous dans les commentaires si vous appréciez ces passages-là. Moi, ça m'intéresserait beaucoup d'avoir quelqu'un qui apprécie vraiment ces personnages et leurs aventures, parce que là, dans Afra... Oh, ça gâche un petit peu le numéro, quoi. C'est dommage, parce que moi, je resterai tout le temps avec Afra et Sana, quoi. Je trouve ça vachement plus intéressant, nettement plus intéressant ce qui se passe. Alors, par contre, on apprend que Galine, dont tu parlais de Galine, leur maître, là, qui a trahi donc le Six Skin, là, l'espèce de syndicate sur Cantobite, avec espèce d'araignée là, monstrueuse, pour rejoindre donc, le Crimson Dawn. Et donc, comme un membre de la Black Sun, qu'on disait, qui était infiltré, on voit qu'il y a pas mal d'infiltrés de Crimson Dawn un peu partout... dans les différents syndicats du crime, quoi. Donc ça, c'était intéressant, viteuf, hein, on va dire.
Ouais, tu vois, ce serait encore plus intéressant s'ils nous avaient fait une Secret Invasion, quoi. Genre, le Crimson Dawn est partout, et grâce à ces agents un peu postés aux quatre coins de la galaxie et dans toutes les organisations, ils arrivent à court-circuiter tout le monde pour récupérer Han Solo, pour avoir un moyen de pression sur la rébellion, sur Vador, etc. Là, ça aurait pu être intéressant, tu vois.
Oui, c'est vrai. Ça aurait pu.
Mais bon, ça aurait pu.
Ouais. Ouais, non, c'est vrai que ouais, un genre de Secret Invasion version Star Wars, ça aurait été pas mal. Ouais. Mais et du coup, pour finir sur Afra, j'ai quand même bien aimé le côté Afra, quoi. Tu vois, elle réussit à clear sa mission là, mais elle en veut toujours plus. Tu vois, toujours plus que ce qu'elle est censée faire. Du coup, elle se fait choper, elle se fait enfermer. Et puis j'aime beaucoup le design des robots là. Rappeler les robots.
Les sentinelles qui ont déjà quelques centaines d'années.
Ouais, j'ai beaucoup aimé le design. Moi, ça me fait penser, alors je sais pas ce que vous en pensez, au Mando Shawan du cinquième élément, l'espèce de gros truc qui arrive sur Terre, là, qui pose des cinq éléments, et un petit peu les robots de Laputa du château dans le ciel. Là. Donc un mix de ça, quoi. Et ils ont un caractère très poli. Apparemment, ils s'excusent souvent. Ils sont très polis quand ils sont attaqués et tout. Donc, j'ai aimé le design, j'ai aimé le côté humoristique du truc. Donc ça, c'est un truc qui m'a bien plu aussi. Et voilà. Et le cliff de fin aussi, c'était pas mal. Le cliff du premier numéro d'Afra pour enchaîner sur le team-up avec Ariol et Lucky, que là aussi, j'ai bien aimé. Mais encore une fois, oui, t'as complètement raison. Ça a pas tellement de rapport avec tout ce qui est solo et la guerre des chasseurs de primes. Mais voilà, en mode Afra, voilà, dans le 100% Afra, on suivra ses aventures un petit peu dans le Vermillon. Et puis moi, ça me fait toujours plaisir, quoi. Alors ouais, pour revenir sur le dessinateur que tu mentionnais, Tom, je me suis renseigné un petit peu parce que pareil, alors oui, c'est très différent, mais moi j'ai bien aimé ces dessins, bizarrement. Tu disais qu'ils étaient très moches. Moi j'ai plutôt bien aimé. Alors il faut dire que l'artiste, là, c'est Federico Sabatini, il est italien du coup. Et c'est un jeune artiste, tu vois, il commence juste, là, il a un an d'expérience chez Marvel, là, il a fait Spider-Man, Moon Knight et tout, quoi.
Il a un côté manga, je trouve.
Non, c'est pire que ça, il y a un côté cartoon. Star Wars Adventures, voilà. Ou Spider-Man jeunesse. Action, truc comme ça, très très jeunesse.
Ouais exactement.
Et ça m'a vraiment gonflé.
Ah ouais, justement, j'ai trouvé ça sympa, justement, parce que je trouvais que le style de c'était Jung, ouais, le dessinateur principal de Afra, ça faisait déjà un petit peu ça, un petit peu manga slash cartoon, et là je trouve que ça va, mais c'est encore très différent, je comprends.
Mais ça peut être cool, mais ce qui est dérangeant, c'est que quand tu passes d'un style à tout l'autre, ça change, je trouve, le ton de la série. T'as des séries comme ça, où depuis le départ, c'est volontairement cartoon, ou ce que tu veux, je dis n'importe quoi, Invincible, ou tu vois, The Walking Dead, ils ont un style particulier. Mais comme c'est, il y a une continuité, alors sauf au départ, hein, pour les deux titres que j'évoque, mais après, quand le dessinateur reste le même avec son style à lui, ben en fait ça fait partie de, comment dire, de l'identité de la série. Or là, quand tu passes de tout l'un à tout l'autre, ben, ça fait bizarre. Mais peut-être que dans l'autre sens, si on avait commencé avec lui et qu'on était parti sur autre chose après, ça aurait fait le même effet. Hein. C'est...
Oh oui, sûrement. Et...
Je sais pas, moi ça m'a toujours gêné, mais je me rappelle de pas mal de séries où les gars ont des bons dessinateurs et tout d'un coup, je pense à Jim Lee ou Ivan Rice, les gars, dès qu'ils quittent le titre chez DC par exemple, ping, bah waouh, enfin c'est moins bien quoi, alors que pourtant t'as toujours le même scénariste, mais voilà, ça fait ce effet là.
C'est peut-être une question d'habitude, hein. C'est quand tu t'enchaînes plusieurs numéros avec le dessinateur, ouais. C'est évidemment que ça choque.
Ou alors en prendre un similaire, tu vois.
Similaire, ouais. Ben là, je pensais qu'il y avait un petit côté, le petit côté cartoon qui faisait un peu similaire, mais en effet, ouais.
Bon, la semaine prochaine, ils vont nous mettre John Romita Jr., tu sais, pour avec des gueules bien carrées, pour changer.
Alors, j'adore John Romita Jr., mais c'est vrai que sur du Star Wars, je serais pas fan, quoi. Pourtant, je l'adore.
Et du coup, sois rassuré, mais le prochain numéro d'Afra, donc le 15, ce sera le retour de Jung, donc le dessinateur attitré.
D'accord. Dire. C'est que le gars, il était à la bourre un peu. Quoi. Ou alors
il devait être à la bourre, ou malade. Je sais pas trop ce que c'est, mais ouais. D'ailleurs, on sait jamais, quoi. Il a peut-être eu quelque chose. Ouais, parce que la scénariste est la même, hein. C'est toujours Alyssa Wong, moi, que j'adore et que je trouve excellent, quoi. Donc, ouais, moi, ces numéros m'ont bien plu, quoi. Il se passe pas mal de trucs. Pas lié à l'intrigue, on a dit, mais on avance gentiment, et moi je trouve ça très intéressant. Et voilà, un des numéros qui m'a aussi un peu déçu, c'était c'est bizarre de dire ça, mais le numéro principal, quoi, War of the Bounty Hunter, j'aimerais qu'on revienne dessus un petit peu, avec le meilleur dessinateur du monde,
le spécialiste des huttes.
Voilà, allez, comment t'as trouvé les huttes, justement, ils sont un peu...
Ouais, ça allait un peu mieux, il a progressé en fait.
Il a progressé, mais il est aidé, je crois. Il est encore toujours aidé d'un autre gars. Par contre, les visages, c'est toujours pas top. Hein. Là, Leia, elle a des têtes parfois, c'est.
Kira était mieux fait qu'avec justement le fameux dessinateur dont on parlait juste avant. Où là, tu la reconnais même pas.
Ouais, c'est vrai qu'elle a. Ouais. Mais et puis Soul, j'ai beau aimer Soul, mais là, c'est vrai que c'est un peu plan-plan, quoi. Alors, ce qui est bien dans ce numéro, par contre, contrairement au dernier où il se passait vraiment rien, c'est que là, t'as vraiment les différents groupes et on passe d'un groupe à l'autre et donc tu t'ennuies pas vraiment, quoi. Le 2-3 était tellement plat que là il se passe tout plein de choses et au final moi j'ai suivi ces différents groupes avec plaisir, donc ça a fait plaisir. La petite bombe sonique de Boba Fett là,
est-ce que t'as déjà ah oui ça c'était cool, ouais. C'était cool. Mais est-ce que t'as déjà été déçu genre par un comics?
Mais si, je t'ai dit la semaine dernière le 3 était plat, quoi. Bon, j'ai quand même mis 15. D'accord. Mais c'était relativement plat, mais j'ai du mal à dire ouais putain je me suis vraiment chié, quoi. Tu vois, c'est j'analyse bien moins que vous, j'ai l'impression, aussi tout ce qui est scénario. Donc moi je me laisse porter par le truc et au final
moi ça m'arrive aussi, hein. Ça peut m'arriver, ouais. Aussi, mais là pour que je me laisse porter, faut qu'il y ait une vague,
ouais.
Et là c'est la mer d'huile la nuit où le Titanic a sombré, quoi. L'iceberg est droit devant et
on a mis un moteur sur la planche, ouais.
Voilà, j'ai peur qu'à l'arrivée on soit à 4000 mètres sous le niveau de la mer, quoi.
j'ai trouvé qu'il se passait un poil plus de choses que dans le dernier, donc c'est pour ça que ça m'a agréablement surpris, on va dire, quoi. Donc ouais, je vais être moins véhément que vous, quoi. Et c'était quoi qui manquait? Ah oui, le Bounty Hunter, du coup. Ouais, mais le Bounty Hunter, pareil, moi j'ai quand même trouvé ça très sympathique, quoi. Mais déjà, j'ai bien aimé le fait qu'on explore un petit peu le passé de Valence, là. Je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est tout ce qui est son histoire avec son ex, ça... C'est quoi? C'est la fille d'un des clans aussi qui s'est fait capturer, qui s'est fait récupérer par son ex, justement, et du coup qui est en danger, parce qu'apparemment... ça, c'est important pour la suite, hein, parce qu'apparemment, le Crimson Dawn serait à la recherche de cette mystérieuse fille-là.
Oui, c'est le cliffhanger de l'épisode. Donc, voilà. Adelia, la demoiselle, la jeune fille qui l'a sauvée dans le premier volume de la série, et qui est cachée sur une planète avec des rebelles, je crois, intéresse beaucoup l'aube écarlate, et notamment Destik, qui va être chargé de la récupérer. Donc, pourquoi, on ne sait pas encore, mais c'est peut-être le seul truc qui me dit « Ok, ça peut avoir un intérêt », parce que dans cet épisode, on retrouve alors la team B, on va dire, de la série Bounty Hunters, dont je ne me souviens même pas les noms des personnages, tellement j'en ai rien à faire. qui sont partis chercher The Cus, on l'avait vu dans le volume d'avant. Oui. Et donc là, cette fois-ci, en fait, ils arrivent, ils atterrissent sur Jekara et ils vont libérer Bosque au passage. Donc voilà, en fait, c'est à peu près tout ce qui se passe dans l'épisode, puisque tout ce qui concerne Valence, on l'a déjà dans le War of the Bounty Hunter 4.
Complètement, mais on l'a en plus joli. J'ai remarqué ça.
Oui, c'est plus joli.
Plus joli que Lucross. Et le combat, justement, Boba contre Valence, bon, c'est un combat viteuf. Hein, justement, dans la War, c'est deux pages, le truc, c'est bâclé. Là, c'est un poil plus long, ce qui est bizarre, parce que c'est pas vraiment la série principale, on va dire. Mais c'est plus beau. Moi, j'ai trouvé ça plus beau, c'est comment il s'appelle Villanelli, toujours top, quoi. Il fait des bonnes splash pages.
Et puis on n'a pas de changement de dessinateur. Alors, juste un truc qui m'a chafouiné. Alors, on le voit pas clairement, mais on peut quand même supposer que Bosk a ses jambes, alors qu'elles avaient été coupées deux numéros avant. Alors, ça repousse vite, c'est possible, hein, comme le fameux Namek de Dragon Ball Z dont nous parlait Thomas la dernière fois, où il y a une petite incohérence. Après, il n'y a rien de dramatique parce qu'on ne les voit pas, mais à un moment donné, il attaque quand même les personnages une fois qu'ils se libèrent, et il semble visiblement être debout derrière elle. Donc, voilà. Donc ça, c'est pour la petite...
Ouais, c'était pas mal, ça, ce petit passage avec Bosk aussi. J'ai bien aimé le retrouver. Et si tu comptes bien, c'est qu'on a cinq... Cinq Bounty Hunter iconiques là, dans ce numéro.
Et aussi pour faire une comparaison, pour faire une comparaison avec Dragon Ball, je ne sais pas si tu as remarqué, mais les Namek dans Dragon Ball se font toujours couper les membres parce qu'on sait que ça repousse. Alors que, et c'est la même chose avec les 32 Shan dans Star Wars. Depuis qu'on a compris que ça repoussait, et ben, tous les 32 Shan se font couper des membres. Et ça
repousse c'était
direct.
Le cas dans Boba Fett, dans la série Boba Fett, ouais, effectivement.
Et dans Haute République aussi, ils ont un 32
Shan.
Vas-y que je te coupe le bras, t'inquiète, ça va repousser.
Bah, c'est ça qui me fait dire qu'il y a une incohérence, c'est que Maître Skeer, au moment de la Haute République, il le garde pendant longtemps, son bras coupé quand même.
Ouais, je suis d'accord. Ouais, donc, ça aurait dû mettre plus de temps, oui.
Ouais. Non, mais c'est vrai, t'as raison.
Donc voilà, ouais, c'est vrai que bon, alors après, niveau dessin, bon, bah, c'est forcément effectivement différent, puisqu'on a des épisodes indépendants.
Ça fait très franco-belge, je trouve, le dessin de celui-là.
Ouais, alors surtout sur... non, mais même le Lucross, je trouve, il fait très... alors, raté, mais il fait très franco-belge aussi, je trouve. Alors, c'est peut-être les aplats de couleurs.
Oui, celui-là, non. Oui, je parlais du Lucross, oui, tout à fait.
Oui, oui. Ouais. Bah, ça fait... Je sais pas si c'est pas les couleurs, parce que les couleurs, elles sont vachement pastel. Et je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment...
Et puis, les visages qui font un peu... pas réaliste, mais tu sais, ils font... Enfin, je sais pas, c'est des traits, je trouve, un peu droit, un peu... Mais qui ressemblent quand même aux acteurs, quoi.
Non, ouais, on reconnaît les personnages, mais sinon Vador, bah c'est toujours, moi je trouve ça toujours moyennement top. Là, je trouvais que c'était plutôt le haut du panier sur ces deux-là. La série Star Wars, bah elle est pas là. Afra, c'était voilà, moi je trouve que c'était une catastrophe les deux épisodes. Bounty Hunter, voilà, on vient de le dire, c'était magnifique. Et War of the Bounty Hunter, c'était pas terrible. Donc
ah oui, ouais. Effectivement. Oui.
Bilan mitigé. Pour moi. Je vous propose qu'on passe au dernier épisode. Donc, c'est le one-shot qui est consacré à Bush. Moi, je voulais qu'on le laisse de côté parce qu'il est vraiment totalement détaché de l'intrigue principale. Et il est plutôt relié à Afra, d'ailleurs. On aurait presque pu faire un volume, un petit volume de en mettant tous les épisodes d'Afra et celui-là avec, ça aurait pu avoir du sens.
Alors, se demander comment ils vont le caler en 100% d'ailleurs, tous ces trucs-là.
Ben ça c'est, ils auront un volume avec tous les, ils appellent ça les compagnons, donc tous les one-shots.
Ouais, les one-shots seront tous publiés ensemble. Ouais. Donc en fait, on va suivre Bush qui traque à l'aide de son clan, des Ubis. Donc quatre autres mercenaires / chasseurs de primes qui sont tous dans le même style que lui, avec les mêmes casques et les mêmes équipements, et qui vont en fait, ils sont venus récupérer la voiture qui a été volée, la voiture du chef du Soleil Noir, donc le fameux chef donc qu'on a déjà vu plusieurs fois, qui n'est pas Xizor mais qu'on a déjà vu plusieurs fois.
La Batmobile de Burton, on peut dire.
Ah ouais. Alors je dirais plus la Batmobile de Val Kilmer de Schumacher. Dans Forever, ouais, c'est vrai,
ah
c'est
oui.
Pas bête.
Ah oui.
Donc voilà, donc ils vont récupérer donc cette voiture, ça c'est vraiment le démarrage. Et puis ils vont rencontrer, enfin ils vont être contactés par Margot, la seconde de Kira, qui veut les embaucher pour tuer la famille Tag justement, dont on parlait tout à l'heure. Et donc à cette occasion, on va retrouver en fait Tag et toute sa famille, en fait le conseil d'administration de cette immense société familiale. Elle les a tous réunis. Donc, comme ils sont tous réunis, ben, le groupe de mercenaires va
en profiter pour essayer de tous les dézinguer sur demande de l'aube écarlate. Mais Domina, qui elle, en fait, cherche à reproduire la technologie des sabres laser, mais sans cristal kyber, donc est armée, et elle va prendre la défense donc de sa famille, faire la découverte que son frère les a trahis, que c'est lui qui a livré l'endroit de la réunion à l'aube écarlate, parce qu'il voulait récupérer l'entreprise, donc il voulait que tout le reste de la famille soit neutralisé. Et voilà, donc ils vont se battre, Domina va tous les maîtriser, et elle va leur proposer plus d'argent en échange des informations qu'ils détiennent sur l'aube écarlate, et elle va également leur proposer de rentrer sur leur planète, puisqu'ils sont en fait punis, ils sont en exil, ils ont commis des crimes, et donc ils ne peuvent pas rentrer sur leur planète, c'est la raison pour laquelle ils sont en dehors de, je sais plus, Ubi 4, je crois, Ubi 4, un truc comme ça.
Ubi 4, je crois que c'est ça.
Donc voilà ce qui se passe dans cet épisode. Donc il est vraiment détaché de l'intrigue principale, il va peut-être s'y relier un petit peu après, mais j'en doute fortement. Et je dois dire que pour moi, ça a été la révélation de ce volume, et c'est l'épisode que j'ai trouvé le plus intéressant, celui dans lequel il se passe le plus de choses finalement, sur lequel on apprend voilà, des informations sur les personnages, sur les choses qui traversent, sur les jeux d'alliance et les conquêtes qu'ils veulent faire. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'aime pas trop le design de Bush à l'origine, mais là, en voir 4, ils étaient 5 du coup, en voir 5 avec. Et je trouve que ça fonctionne d'enfer. Le dessinateur, il est au top. Mais prenez-le, mettez-le sur une série régulière. Ce mec, il est génial. La colo, elle est géniale. Enfin. Moi, il n'y a rien que j'ai détesté dans cet épisode. Quoi.
Si, le lien avec la série principale.
Ben, en fait, il n'y en a pas vraiment pour l'instant. Mm-hmm. C'est plus un lien avec Aphra, qui a elle aussi été envoyée par Domina. D'ailleurs, on ne sait pas trop pourquoi. Je ne me souviens même plus.
Elle voulait récupérer justement ces fameux data.
Ah oui, c'était juste pour le collier, mais au final, c'est juste parce qu'il se trouve là-bas à ce moment-là.
Non, parce qu'en fait, elle voulait comment elle a fait tuer, c'est ça, Aphra a fait tuer par accident le cousin ou le frère de Domina, et du coup pour se racheter Domina pour pas qu'elle la bute, elle lui a redonné de faire quelques errands pour elle.
Merci Jean, tu vois, j'en avais vraiment déjà oublié cette partie-là. Et finalement, Domina Tag, je trouve qu'elle apparaît comme un personnage hyper intéressant, hyper charismatique. Ouais. Voilà. Mm-hmm. Ça me rappelle la fameuse reine de Shutorun, qu'ils avaient réussi à rendre vraiment un personnage incroyable. Et ben là, on prend le chemin pour Domina, j'espère qu'elle va être encore là un moment.
Retrouver des liens avec d'autres épisodes, il y avait aussi, on voit Deva, rappelez la fameuse Deva, la mercenaire qui est
magnifique dans les. Bien sûr.
Ouais.
Joue, avec les plumes, super bien les fait. Plumes sur la tête.
Ouais. Le design est super top. Ouais. Quoi. Elle était déjà dans le Jabba et le Forlum et Zuckus, et donc là, la petite apparition aussi. Si, je ne sais pas si ça sera un fil conducteur de tous les spin-offs, de tous les one-shots, pardon. Je ne sais pas.
Sûrement un personnage qui va être réutilisé à terme, en tout cas, parce que
j'espère.
C'est vrai qu'elle est atypique, donc quand t'as une bonne création comme ça, t'essayes de la garder. Ouais.
Mettez-la dans une série, bon sang.
Et comme toi, les designs de Bush, pas pareil. Bush, alors déjà, je trouve ça cool d'explorer un petit peu le passé, et l'histoire et un peu la culture quoi, de leur race-là, parce que à part le costume de Leia dans l'épisode 6, on l'avait jamais vraiment vu, ce personnage.
Ah bah non, carrément.
C'est une race en fait de alors ils sont très proches humains mais qui vivent en fait complètement coupés de la galaxie. C'est-à-dire qu'ils sont sur leur planète et ils n'ont pas de transfert quoi, il n'y a pas de migration etc. Donc ils sont complètement coupés de la galaxie et manifestement les seuls qui se retrouvent dans l'univers Star Wars, c'est les gars qui sont foutus dehors. Quoi.
D'accord. Ah c'est intéressant tu vois ça. En plus, tu vois, c'est ce qui est cool, c'est qu'il y a un mystère, on voit jamais leur tête, et le passage où ils sont au resto et qu'ils font un petit meeting où ils enlèvent leur casque,
ça, c'est génial.
L'image est coupée. L'image est coupée au niveau de leur tête. Du coup, tu vois leur casque sur la table et pas leur tête.
C'est ça. Je trouve que ça fonctionne super bien.
Ouais, t'as le mystère qui est entretenu, quoi. C'est cool. Je sais pas si tu voulais enchaîner sur quelque chose, Tom.
La question de, encore une fois, comment Leia va récupérer ce costume pour aller chez Jabba et quel est le lien pour... C'est ça qui est intéressant aussi, quoi. Puisque ce perso, en fait, on le voit jamais. On voit juste son costume qui a été piqué quand il va chez Jabba. et on retrouve encore la fameuse fin de Star Wars du gars qui est dans l'armure d'un autre type.
Et je crois que Francis pourrait te dire que en fait on voit comment Leia s'emparait de l'armure de bouche dans un épisode de, alors c'est quelle série, je me plante pas, de... c'est de Fate of Destiny, c'est quoi là, la série là, la série où t'as tous les personnages féminins sur je sais plus, j'ai oublié le nom. Fate of Destiny, non ?
C'est une série Star Wars ?
Ouais, la série animée pour enfants.
YouTube,
quelque chose de Destiny.
Oui, oui, je sais plus. Il y a Destiny dedans.
Ouais, Destiny dedans. Bref. Et là, il y avait un épisode, si je me rappelle bien, où tu voyais Leia qui. Et là, c'est des souvenirs très lointains, donc je peux peut-être me tromper. Mais corrigez-nous dans les commentaires si vous avez la réponse, mais je crois que c'est un truc comme ça. Donc on sait, je crois, canoniquement, comment Leia récupère son armure. Mais oui, entre-temps...
Est-ce que ça va être canon ? Je sais pas si les mecs au scénario vont s'emmerder. Non, théoriquement, ils devraient, mais est-ce qu'ils vont réellement s'emmerder avec une petite série comme ça, tu vois, un peu web-série, je sais pas, quoi.
Bah, probablement pas, quoi. C'est... Après, s'il n'y a rien techniquement qui va à l'encontre, ils peuvent le faire, mais je ne vois pas l'intérêt en fait, de garder ces Forces of Destiny. Voilà. Je ne vois pas l'intérêt en fait, de garder ça canon si tu as quelque chose à raconter. Par contre, si tu n'as rien à raconter, bah, garde-le. Au pire.
Voilà. Est-ce que le gars sait que ça existe, quoi ? C'est ça, quoi.
Oh, bah ça. De toute façon, les comics, ça, déjà, c'est déjà pas top top. Alors, les petites séries comme ça.
Ouais, bon, en tout cas, ouais, non, c'est. Le dessin, comme tu dis, est top top là, de ce numéro-là. Là, c'est un espagnol, là, Baldeón, il s'appelle. Et il fait beaucoup de Marvel, il fait beaucoup de DC, de IDW, c'est un bon, il connaît. Et ouais, pareil, comme toi, j'ai beaucoup aimé les dessins, la couleur aussi, le côté Power Rangers, mais c'est un petit peu les bouches de différentes couleurs, là, et les masques. Poil différent.
Ouais, ils sont différents les autres. Ouais. Il y en a qui sont plus ou moins cool quand même. Mais t'as l'impression qu'au début, tu te dis, quand tu vois les casques, tu te dis, le gars qui est dessous, il a forcément une gueule d'alien, mais en fait, non, ils ont des formes bizarres, c'est même pas pour absorber les visages, quoi. C'est.
Est-ce qu'on avait leur visage dans le Legend ?
Oui, on en voyait des fois, ouais.
Et donc, c'est des humains normaux, en fait.
Ouais, c'est des proches humains, quoi. La nuance, elle est très faible, en fait, quoi. D'accord. Peut-être ils n'ont pas de cheveux, je crois. Mais ceux qu'on voyait, c'était des chauves, je crois. Mais c'est peut-être le cas particulier de celui qu'ils avaient illustré, quoi.
Ouais. Et pour revenir... oui, en plus, oui, on apprend que Bush a perdu un enfant, apparemment. C'était un parent.
Oui, ça, voilà, exactement. Donc, ça, d'ailleurs, on le voit en flashback. Hein, mm-hmm. On le voit en flashback, donc à un moment donné, il y a il est puni en fait de son crime, je ne sais plus ce qu'il a fait, et en fait, on met le feu à sa maison et il retrouve son enfant mort. Et c'était intéressant parce que je ne m'attendais pas à avoir ce genre de background avec un personnage comme celui-ci. Et ça, plus le côté exil, il y a vraiment un côté tragique chez eux qu'il faudrait vraiment explorer, quoi.
Complètement. Ouais, non, super numéro, bien. Vraiment. Et oui, comme tu disais, Domina en mode badass, là, c'était ouf, quoi. Excellente.
C'était excellent.
Tout ce qui est relation avec sa famille aussi, donc l'espèce de splash page où tu vois vraiment toute sa famille, la table énorme dans la pièce, la façon dont
elle. Ça donne pas envie d'avoir de l'argent dans la famille. Hein.
Oui. Ah bah non, c'est clair.
Ouais, comment elle arrive à trouver le traître qui les a trahis.
Son frère, son propre frère.
Ouais,
forcément il y a de la frustration, quoi, tu vois.
Ah bah c'est sûr. Bah surtout que elle est à la tête du truc et elle a pas envie de lâcher, quoi.
Ouais, j'adore. Vraiment le design et tout, vraiment l'espèce de robe là, parce qu'à un moment elle est en tenue de combat, elle se change pour être en mode vraiment en mode comme on la connaissait avant, quoi. Avec la robe longue là, je trouve super super jolie, quoi. Vraiment.
Ouais. Non, franchement, c'est
magnifique. Magnifique le design aussi.
Donc, vos notes, vas-y Jean.
On commence par la plus haute note, j'imagine. Ouais, bon, alors, pour venir un peu sur la conclusion de ce volume-là, donc moi j'ai trouvé quand même qu'il se passait nettement plus de choses que le tome précédent. Donc, moi c'est ce que j'avais reproché au tome précédent. Donc, pas loin. Ouais, mais ouais, je sais pas. J'ai jamais trop aimé les notes, moi. Je sais pas vraiment comment. Quelle est la meilleure façon de noter, quoi. C'est vraiment le ressenti, quoi. Là, tu vois, j'ai fermé le dernier numéro. En plus, tu finis sur bouche.
Et c'est très subjectif, hein. Donc,
ouais. Donc bon, ben ouais, désolé encore, mais je vais pas être très original. Moi, le fait qu'il se passe plein de choses dans chaque numéro, hein, j'ai beaucoup aimé. Bon, les deux Afra, comme vous l'avez compris, mais le Bush, bon, j'ai adoré. Le Bounty Hunter, j'ai plutôt bien aimé. Et les Vador, ben moins déçu que les précédents. Du coup, au final, ça va quoi. Ça va. Même le numéro principal, War of the Bounty Hunter, là, qui est bien remonté, surtout comparé au 3. Donc ouais, donc j'avais mis quoi, un 17 au tome 1, je crois. Ben là, je crois que je vais mettre un petit, ouais, un 17 aussi, quoi. C'est 16, allez, 16, 17.
J'étais pas loin, hein.
Ouais. Non, peut-être pas 18, ouais. J'avais mis 18 au 2, que j'avais beaucoup, beaucoup aimé, notamment, c'était le tome avec Dirge. Donc j'avais beaucoup aimé ce numéro-là en particulier, et puis l'album dans sa globalité, mais là je te dis, le 3, vraiment plat, quoi, zéro émotion, et là j'ai quand même bien pris mon pied, donc ouais, que ce soit l'histoire et le dessin, mais surtout le dessin aussi, moi il n'y a aucun dessin qui m'a vraiment déplu, donc je mets un petit 17, allez, vas-y, on arrête sur ça.
Pas mal, pas mal, vas-y Thomas.
Alors moi, à chaque fois je mettais quand même des bonnes notes, mais là c'est vraiment le fait que ce soit le quatrième tome, et que... ce soit encore poussif, j'ai du mal à mettre la moyenne, je mettrais presque un 9. Mais je pense qu'il prend un peu cher à cause des autres, tu vois. C'est comme quand un président, t'es déçu de lui, mais des fois, il cumule les conneries des autres avant. Bah là, c'est un peu la même chose, tu vois. C'est pas que de sa faute, le tome 4, mais cumulé, sachant que c'est le quatrième tome et que c'est de pire en pire, bah voilà, je lui mettrais pas la moyenne, je lui mettrais 9. Quoi.
Comme quoi Alors, moi, j'étais parti pour lui donner une très mauvaise note, parce que quelque part, je me disais qu'on peut presque s'en passer et lire un résumé ou écouter notre émission et puis prendre directement le volume 5, en tout cas le 3 et le 5. Mais là, d'avoir reparlé avec vous de cet épisode sur Bush, je revis le truc et ça va me faire réévaluer ma note, parce que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié ce one-shot. Même si je suis d'accord, on restera 30 pages.
Si
tu l'avais
mis au début du tome, ça aurait changé la donne, alors du coup.
Non, pas du tout. Non, au contraire, je serais tombé encore plus bas. Ce qu'il y a, c'est qu'on a 30 pages sur 168, je crois. On va dire qu'ils m'ont convaincu, donc ça fait quand même un faible ratio. Mais j'étais parti plus pour un 5 sur 20, et là, il va quand même réussir à me faire donner la moyenne. Donc je vais partir sur un 10.
Merci Bush.
Juste grâce à cet épisode sur un personnage en plus dont je me fiche royalement, donc bravo quoi.
Mais c'est voilà. Ça qui est cool avec ces one shot là, que ce soit Jabba ou même Forlom et The Cuss, c'est que et ce quatrième aussi. Du coup, c'est des personnages que ultra secondaires, tu t'en fous un petit peu, que du coup tu peux pas être vraiment déçu et au contraire t'es agréablement surpris. Et ouais c'est top.
C'est peut-être plus libre aussi.
Celui de Jabba, je l'avais trouvé pas forcément top, mais il y avait ce personnage de Deva qui était tellement intéressant. Que ça avait quand même remonté le niveau, quoi. Donc voilà, effectivement, on peut avoir des bonnes surprises, comme quoi, voilà. Et pourtant, d'habitude, les one shots, c'est pas les trucs les plus intéressants. Bah là, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est l'histoire principale qui est un peu moins intéressante. Écoutez, messieurs, sur ces critiques, on va conclure cette édition de Star Wars en direct littérature. On va faire nos petits rappels. Vous pouvez partager avec nous vos suggestions, vos commentaires, vos réactions. Vous pouvez venir nous discuter avec nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Mais bien sûr, vous aurez plus de chances d'interagir avec nous sur notre serveur Discord. Et pour ceux qui ont la vidéo, vous trouverez donc le lien en bas de votre écran. Sinon, on vous invite à venir sur nos réseaux sociaux. Vous y trouverez facilement la porte d'entrée. Et évidemment notre chaîne YouTube aussi, vous pouvez venir commenter. C'est vrai que ces derniers temps on n'a pas forcément passé régulièrement pour checker les commentaires et discuter avec vous, mais on va s'y remettre. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, ça vous permettra de connaître à l'avance nos émissions qui sont en live notamment, hein, comme on a fait il y a deux émissions et c'était pas prévu, donc vous pourrez interagir avec nous encore plus facilement dans notre chat. Et comme d'habitude, vous pouvez partager ces épisodes sur les réseaux sociaux et faire croître notre communauté. Et ça, ce serait vraiment sympa. Et donc, de la part de toute l'équipe, et de Thomas, et de Jean, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.